CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour, bonjour tout le monde. On est jeudi, c'est votre MAG politique sur CFM Radio, politiquement vôtre, présenté par Kader Youb. Bonjour Kader.
Bonjour Aurélien, bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui Chantal Mauchet, préfète du Tarn-et-Garonne depuis la mi-décembre 2020 et qui a succédé donc à Pierre Bénard. Bonjour Madame la Préfète et bienvenue à vous sur CFM Radio.
Bonjour Kader et bonjour à tous.
Vous êtes originaire de la Creuse, diplômée de l'ENA, promotion René Cassin, et vous étiez avant le Tarn-et-Garonne préfète de l'Ariège, second département d'Occitanie donc pour vous. Avec vous, aujourd'hui, nous allons aborder la situation sanitaire en Tarn-et-Garonne, la stratégie vaccinale que vous allez mettre en œuvre, que vous mettez en œuvre, le plan de relance dont le gouvernement attend beaucoup pour remettre en mouvement le pays, sitôt la crise sanitaire terminée. Nous évoquerons aussi l'immense détresse dans laquelle sont plongés les exploitants agricoles du département après l'épisode de gel que nous avons connu il y a quelques jours. Un mot, tout d'abord, si vous le permettez, Madame la Préfète, sur votre arrivée à Tarn-et-Garonne. Après presque 5 mois, quel est votre sentiment sur le département ?
Alors, merci pour cette question. C'est effectivement déjà cinq mois que j'ai pris mes fonctions, puisque je suis arrivée fin décembre. Une impression tout à fait positive, parce que je suis vraiment très heureuse de découvrir ce nouveau département d'Occitanie, qui est très très différent de l'Ariège. Outre qu'il n'y a pas la montagne, il y a plein d'autres choses. Hein. C'est un département effectivement agricole, mais aussi très industriel, avec des pépites et des industries très très performantes. Avec un département que je trouve très entreprenant, qui a beaucoup de projets qu'il faut accompagner, ces projets. Et malgré la crise Covid, j'ai tenu à aller assez rapidement sur le terrain, notamment auprès des élus, parce que beaucoup me font part de leurs projets de développement, de leurs projets d'animation de leur centre-ville. Et on a pu commencer à faire des choses, notamment avec un programme Petite Ville de Demain, sur beaucoup de petites villes dans le département. Et puis des réunions d'animation avec les maires, les présidents de communautés de communes. Pour moi, c'est important de faire passer le message que l'État est en proximité et sur le terrain.
Alors, vous avez parlé d'agriculture, du département agricole qui est le Tarn-et-Garonne. Tarn-et-Garonne qui fait partie des tout premiers vergers de France, pour employer la formule consacrée. L'épisode de gel printanier qui s'est abattu sur la France a provoqué des dégâts sans précédent. 10 des 13 régions françaises ont été touchées, et bien sûr Occitanie. On parle d'un phénomène d'ampleur quasiment sans précédent. Le ministre de l'Agriculture a promis que la solidarité nationale serait au rendez-vous pour tous les agriculteurs, tous les producteurs victimes de cette catastrophe dont le coût sera terrible, a-t-il indiqué. Le Premier ministre français Jean Castex a promis samedi dernier des enveloppes exceptionnelles. Le Tarn-et-Garonne fait partie des tout premiers vergers de France, je vous le disais. Connaissez-vous, Madame la Préfète, l'ampleur des dégâts pour notre département ?
Les dégâts sont importants et vous l'avez cité, c'est sur toute la France en plus, hein, donc c'est tout à fait significatif. C'est pour ça aussi que le constat de ces épisodes de gel, c'est le Premier ministre qui a pris la main pour annoncer un milliard d'euros d'aide. Il était la semaine dernière en Occitanie, hein, d'ailleurs. Et puis des dispositifs tout à fait exceptionnels qui sont mis en place par les services de l'État. Malheureusement, ces épisodes de gel peuvent arriver de plus en plus fréquemment. Un gel de cette ampleur est arrivé dans les années 91, hein, donc il y a une trentaine d'années, mais dans mes différentes visites auprès des agriculteurs, viticulteurs, arboriculteurs, plusieurs m'ont dit qu'il y avait eu des épisodes de gel déjà les précédentes années, 2017, 2019. Et ce qui caractérise ce drame, c'est que c'est pas tant la température, c'est que ça arrive assez tôt. Et surtout que les fleurs, les bourgeons avaient été sortis parce qu'il y avait eu un épisode de chaleur auparavant. Donc, ce qui avait permis d'éclore et du coup, le gel est arrivé juste après. Donc, les dégâts sont importants. Nous sommes en train de les évaluer et en lien avec les agriculteurs, on sait tous que nous aurons plusieurs semaines pour les évaluer. Déjà parce que quand nous avons commencé à faire une réunion de crise le 12 avril, les épisodes de gel n'étaient pas terminés.
Oui.
Je suis allée sur place le 16 avril et il venait d'y avoir encore une nuit de gel et les agriculteurs se préparaient à une nuit ensuite de gel à nouveau. Donc plusieurs semaines, déjà pour voir quels bourgeons sont touchés et ceux qui peuvent repartir. Une évaluation des dispositifs immédiats qui sont mis en place pour éviter une trop longue période de trésorerie ou d'insuffisance de trésorerie pour les agriculteurs dans l'attente des versements d'aide.
Mais d'ores et déjà, aujourd'hui, Madame la Préfète, quel message adressez-vous aux agriculteurs du Tarn-et-Garonne ?
J'ai eu l'occasion de leur adresser directement,
oui.
dès la survenance de ces épisodes, que nous sommes avec eux. Ils savent à qui s'adresser, le service d'économie agricole de la direction départementale notamment. Nous travaillons avec la Chambre d'agriculture, donc ils savent s'adresser à nous. Et nous mettrons en place des mesures immédiates et un suivi de certaines situations particulières d'agriculteurs en difficulté.
Bien. Madame la Préfète, la situation sanitaire, autre gros sujet d'actualité, votre parole est attendue justement sur la situation sanitaire en Tarn-et-Garonne. Quels sont les indicateurs les plus alarmants pour ce qui nous concerne ?
La situation du département ne se distingue pas des départements de cette frange de l'Occitanie. On est dans un plateau haut actuellement, ce qui veut dire que les hospitalisations sont assez élevées. Hospitalisations de façon générale Covid, mais aussi en réanimation. Et puis on a un taux d'incidence qui est élevé. On est au-dessus de 200 pour 100 000 habitants. On est à 252 actuellement. Bon, c'est un chiffre qui a beaucoup augmenté les derniers jours et qui est stabilisé depuis quelques jours.
Stabilisé, mais il n'y a pas de décrue, en tout cas.
Non, il n'y a pas de décrue pour l'instant. On est sur un plateau haut et nous sommes malheureusement plusieurs départements sur le territoire national à avoir ce plateau haut.
Est-ce qu'il y a une pression sur le service de soins, à votre connaissance, sur le service d'urgence ? Est-ce qu'il y a une saturation des services de réanimation ?
Oui, bien entendu. Je suis en contact quotidien avec le directeur de l'agence régionale sanitaire, de la direction territoriale du Tarn-et-Garonne. Oui. Donc oui, évidemment, la tension est forte.
Est-ce qu'il y a des actes hors Covid qui ont été déprogrammés, par exemple ?
Oui, mais depuis plusieurs mois, oui. Il y a une organisation spécifique qui est menée au sein des hôpitaux, de tous les hôpitaux, parce que public et privé travaillent ensemble à cette crise. Et il y a des réorganisations qui sont faites et ajustées au jour le jour.
Concernant les personnes âgées, la situation dans les EHPAD, elle est stabilisée dans le Tarn-et-Garonne ?
Toutes les personnes qui sont dans les EHPAD volontaires, bien sûr, ont été vaccinées. Ont eu leur deuxième injection. Donc nous avons une situation qui est stabilisée et protégée à ce niveau-là.
Est-ce que, Madame la Préfète, les mesures de confinement sont respectées ici, chez nous, dans le Tarn-et-Garonne ? Est-ce que les Tarn-et-Garonnais font preuve de civisme ?
Alors, évidemment, il faut des contrôles très vigilants, réguliers. Donc, je salue les policiers et les gendarmes qui sont toujours déployés pour cela, notamment pour le respect du couvre-feu, pour le port du masque. Mais je dois dire que, dans l'ensemble, les Tarn-et-Garonnais sont disciplinés, font les efforts, sont citoyens.
Oui. Lundi prochain, les crèches et les écoles devraient rouvrir une semaine plus tard, ce sera autour des collèges. Est-ce que ce calendrier, sur Jean Castex s'exprimera ce soir
le
Premier
oui.
ministre, est-ce que ce calendrier sera maintenu à aujourd'hui ?
Vous l'avez dit, le Premier ministre va s'exprimer, donc il va donner les conditions, les modalités dans lesquelles cette rentrée doit se faire. J'ai prévu, comme toutes les semaines, un rendez-vous avec les élus de Tarn-et-Garonne demain pour que nous puissions échanger, voir quelles difficultés ça pose, comment on peut surmonter ces difficultés. Je serai avec monsieur l'inspecteur d'académie qui est bien sûr à la manœuvre pour cette rentrée scolaire. Donc, nous verrons les instructions particulières qui pourraient être données et nous y travaillerons ensemble.
Alors, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé qu'il y a quelques jours que le processus de déconfinement serait peut-être territorialisé. C'est en tout cas son souhait. Des informations que vous disposez, pouvez-nous dire si le Tarn-et-Garonne pourrait être dans les départements déconfinés les premiers ?
Alors, je ne dispose pas de ces informations. Je laisse la primeur de l'annonce et des instructions, bien sûr, au niveau national, mais on s'y prépare. Si ça doit être territorialisé, nous saurons répondre.
D'accord. Confinement. Le confinement a plongé beaucoup de familles dans la difficulté socialement. Il y a eu ces phénomènes, malheureusement, de violences conjugales qui ont été augmentées sur le territoire national. Est-ce que, dans le Tarn-et-Garonne, y a-t-il eu une hausse significative de ces violences conjugales ?
Oui, malheureusement, dans les différents indicateurs de délinquance qui sont globalement en baisse, eh bien, malheureusement, les violences intrafamiliales et les violences conjugales sont en hausse. Alors, vous savez aussi que la hausse, elle peut s'expliquer également par le fait que ces faits-là sont plus révélés, sont plus systématiquement aussi poursuivis, même si la personne victime ne dépose pas plainte. Ça, c'est aussi une nouveauté depuis le Grenelle de lutte contre les violences. Donc, les services de police et de gendarmerie poursuivent, même si il n'y a pas de dépôt de plainte, et le parquet également suit. Donc, ça peut être aussi dû à cette plus grande révélation des faits, mais il n'en demeure pas moins que c'est un phénomène et des situations individuelles que nous suivons de très près.
La campagne de vaccination, Madame la Préfète, devrait monter en puissance dans les prochains jours. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés ? On attend des centres de vaccination, ce qu'on a communément, que l'on appelle communément les vaccinodromes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle va être l'architecture de ce dispositif dans le département ?
La vaccination, elle a déjà commencé depuis le mois de janvier, puisque oui. Nous avons 6 centres qui sont dans l'ensemble du département, donc qui innervent l'ensemble du département. Ces 6 centres fonctionnent actuellement à plein régime, avec 6 jours sur 7 des vaccinations sur l'ensemble de la journée. Nous avons un très bon taux d'avancement de la vaccination, puisque, par exemple, pour la population priorité numéro 1, qui était les plus de 75 ans, nous sommes à un taux de couverture de plus de 81%. Donc ça, c'est l'objectif qu'on s'était fixé, parce qu'on sait bien que, sur la base du volontariat, nous n'aurions pas 100%. Ne serait-ce... Donc on a 81% de cette population, mais on continuera bien sûr à vacciner celles qui se présenteront. Et donc maintenant, nous sommes sur les autres populations cibles. Je dois préciser aussi, même si les médias l'ont relayé, et je vous en remercie, nous avons des opérations flash les week-ends. Et nous avons une opération encore ce week-end pour les professionnels, dont les enseignants, tous ceux qui travaillent pour la petite enfance. Et puis cette
tous les enseignants, Madame la Préfète, tous les enseignants.
Alors, pardonnez-moi et merci de me le faire préciser. C'est les enseignants de plus de 55 ans, puisque nous faisons des vaccinations AstraZeneca depuis la semaine dernière. Donc, c'est pour tous les professionnels prioritaires qui peuvent se faire vacciner.
Alors, sur la logistique, est-ce que le personnel qui est chargé de la vaccination est suffisant ?
Bien sûr.
Vous avez des manques ou des besoins supplémentaires ?
Les centres de vaccination, les 6 centres du département fonctionnent très bien grâce à la mobilisation des élus, des collectivités locales et des professionnels de santé. Donc oui, ça fonctionne bien. Nous allons monter en puissance, comme vous l'avez dit, avec des vaccinodromes. Nous aurons 2 vaccinodromes.
Qui seront situés
Alors, Castelsarrasin et Montauban, ça a été... c'est en cours de réalisation et de montage. Nous sommes en lien avec les élus qui avaient fait ces propositions de sites, de lieux. Comme c'est une logistique importante, ça demande des réunions de travail. Nous allons bientôt conclure pour que au mois de mai, nous puissions ouvrir ces centres.
Alors, une inconnue subsistait sur...
Pardonnez-moi, je précise, ces 2 centres ouvriront en plus des 6.
En plus des 6, ils ouvriront à peu près à quelle date ?
Début mai. Nous allons voir sur la première quinzaine de mai.
Alors, sur Montauban, sur le Castel-Sarrasin, Jean-Philippe Bézé, ici, à votre place, nous a indiqué où il se situerait, etc. Mais sur Montauban, il y a une inconnue qui subsiste sur le lieu de ce vaccinodrome ou centre de vaccination. Est-ce que ce lieu est d'ores et déjà acté?
C'est en cours de travail avec les élus et ça, je laisse encore un peu de temps pour que nous puissions le faire très correctement.
Alors, qui dit campagne de vaccination à grande échelle, en tout cas avec une montée en puissance, dit doses. Est-ce que les doses seront suffisantes? Est-ce que vous aurez les doses qu'il faudra pour vacciner la population?
Oui, désormais, la France est livrée dans tous les vaccins, tout type de vaccins, puisque Janssen va arriver également bientôt. Donc, nous avons les doses, elles arrivent dans les centres de vaccination et aussi en médecine de ville et pharmacie. Il ne faut pas également oublier qu'on peut se faire vacciner.
Alors, sera avec les quatre vaccins?
Non, AstraZeneca est en médecine de ville et officine, Janssen également.
Et Pfizer?
Et Pfizer reste dans les centres de vaccination parce que c'est toujours à moins 80 degrés et donc une logistique très, très spécifique.
Alors, nos auditeurs et les Terre-Négaronnais sont très attentifs à... vous le savez, c'est un sujet qui est majeur pour eux. En pratique, les personnes qui le souhaitent pourront faire comment pour accéder à la vaccination? Est-ce qu'il faudra appeler un numéro spécial ou ce sont les médecins, leurs médecins qui feront le lien?
Alors, il y a deux types. Vous avez, depuis le mois de janvier, les plateformes Doctolib, où vous pouvez prendre des rendez-vous. Et maintenant, les populations cibles sont élargies, puisqu'à partir du 15 juin, ça sera tout le monde. Hein. 15 mai, c'est les moins de 50 ans. Et depuis plusieurs semaines, c'est les plus de 55 ans. Donc ça, c'est... déjà en place depuis le mois de janvier. Pour les vaccinodromes, ce sera la même chose. Et puis, quand on a un médecin traitant, on se rapproche de son médecin traitant pour pouvoir se faire vacciner avec AstraZeneca si on a plus de 55 ans.
France se relance, Madame la Préfète, avec 100 milliards d'euros de France relance. Le gouvernement veut obtenir des résultats massifs, très visibles et dans des temps particulièrement courts. Les ministres sont chargés d'en assurer le bon déploiement dans des délais, je le disais, très contraints. 100 milliards, c'est 4 fois plus que ce qui a été injecté pour faire face à la crise de 2008. Et c'est le plan de relance le plus massif rapporté au PIB de chacun des pays de l'Union européenne. Est-il, je pense connaître votre réponse, est-il à la hauteur de la crise que nous traversons, Madame la Préfète?
Alors 100 milliards, c'est effectivement considérable et c'est également des objectifs qui sont poursuivis, qui sont très lisibles pour tous, je le rappelle, c'est la souveraineté économique, c'est le social et la santé, un tiers souveraineté économique, un tiers social et santé, un tiers transition écologique et décarbonation. Donc, sur ces trois grands axes, il y a de nombreuses mesures qui sont ouvertes. Notre travail, mon travail et celui des services de l'État, de l'équipe projet qui s'est structurée au niveau de l'État, c'est de faire connaître toutes ces possibilités d'entrer, de candidater sur France Relance. Aujourd'hui, le ministre de l'Économie nous a indiqué que 30 milliards étaient déjà engagés. Donc, il y a 70 milliards à contrario engagé, ouais. Qui restent engagés. Donc, il faut s'en emparer. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le département est très entreprenant, très dynamique et dans l'initiative. Mais je pense qu'il y a une certaine réticence à utiliser les aides de l'État. Donc, notre travail, c'est de dire non, il faut vous en emparer, il faut pouvoir en profiter, parce que c'est bien ce terme-là. Il faut pouvoir candidater pour soit reconvertir son appareil de production, avoir des aides sur la digitalisation et la numérisation, ou aussi avoir des aides pour embaucher des jeunes, et ça, c'est une priorité.
Alors, les 30 milliards qui sont engagés, dont vous faisiez référence,
au niveau national, oui.
Il faut aussi préciser que dans ces 30 milliards d'euros, il y a aussi l'argent qui a été injecté pour maintenir l'économie à flot, et notamment les temps partiels et chômage partiel.
Ah non, ça c'est...
Ils sont bien en plus ?
Oui, oui, bien sûr. Les 100 milliards, c'est que de l'investissement.
Que de l'investissement.
Hein, c'est que de l'investissement. Il y a par ailleurs, et depuis le mois de mars dernier, toutes les aides de chômage partiel.
Qui viennent en plus, alors.
Voilà, on finance les salaires sur le chômage partiel. On finance également, l'État finance, pardon, le fonds de solidarité pour toutes les entreprises qui ont été fermées et qui sont toujours fermées. Et également les exonérations de cotisations sociales, fiscales, etc. Donc ça, ce sont des mécanismes d'aide, de soutien aux entreprises qui existent depuis le mois de mars et qui sont différentes du plan de relance. Le plan de relance, c'est pour l'avenir et donc c'est de l'investissement.
Justement, investissement, verra-t-on des effets immédiats sur la croissance et sur la vie des Français ?
Eh ben c'est bien le but. Oui, c'est le but, c'est de relancer l'économie, la reprise. Si on embauche des jeunes, c'est aussi pour que ces jeunes-là sortent du chômage, sortent du décrochage pour certains, pour qu'ils puissent s'insérer dans la vie active et se réinsérer. Donc les aides sont nombreuses. J'ai eu l'occasion de les présenter la semaine dernière. Et elles sont effectives depuis plusieurs mois et nous sommes en lien avec les employeurs pour que là aussi ils puissent en profiter et pouvoir embaucher des jeunes. Mais on a de l'investissement industriel, on a de l'investissement public. J'ai également fait savoir que nous avons de la dotation pour l'investissement local des collectivités, communes, départements. Et donc, nous avons notifié une enveloppe significative la semaine dernière de l'ordre de 6 millions d'euros.
Oui, pour des collectivités, c'est ça ?
Les collectivités locales, communes et départements.
Alors, qu'est-ce qui est le plus important, selon vous, dans ce dispositif ? Est-ce l'économie, mise à mal par la crise sanitaire, le social, l'environnement, ou sont-ils tous liés ?
Au niveau du soutien du plan de relance ?
Plan de relance.
Ah ben c'est tout, évidemment, c'est lié. Il faut que nous puissions accélérer encore au niveau de l'industrie et de l'économie. Et puis, le social et le sanitaire sont des priorités aussi. Donc, au niveau du département, nous avons investi ou nous travaillons sur toutes ces dimensions-là. L'agroalimentaire aussi est un projet important avec la Chambre d'agriculture.
Alors, pardon, il faut que France relance les Français s'en saisissent. On ne le sait peut-être pas trop assez. Est-ce que la France, vous l'avez dit, possède des taux élevés de non-recours à certaines aides? Comment comptez-vous faire pour que France relance, aille jusqu'à eux?
Eh bien, nous pouvons aussi utiliser CFM Radio, oui, puisque vous avez des auditeurs qui peuvent être intéressés.
Parce que France Relance s'adresse aussi, pardon, de vous couper, mais France Relance s'adresse aussi à des particuliers.
Oui, pour ceux, par exemple, qui veulent rénover leur maison, leur logement. Donc, il y a MaPrimeRénov qui fait partie du plan de relance, qui a été abondé au niveau de l'enveloppe. Les jeunes qui souhaiteraient chercher de l'emploi, toutes les missions locales sont mobilisées sur cette aide, Pôle emploi évidemment et la préfecture, tout le monde est mobilisé là-dessus.
Bon, on dit souvent, Madame la préfète, pardon, que l'État français est suradministré, alors qu'il a démontré au travers de cette crise sa faculté de résilience, son agilité, sa capacité à faire face. Et comment faire pour que certains n'aient plus cet a priori ?
Écoutez, je ne sais pas si on a un a priori, parce que l'État a montré son efficacité pendant la crise. Hein. Malheureusement, bien sûr, hein, on aurait préféré être moins sollicité, mais je pense que ce qui est important dans une administration, c'est qu'elle soit proche. Le chef de l'État a pu le rappeler récemment. C'est l'État dans le département qui est le maillon le plus proche pour comprendre les caractéristiques d'un département et adapter les politiques publiques. Et ça, c'est bien mon rôle, de pouvoir adapter le plus possible.
Une dernière question philosophique. Quel est, de votre point de vue, l'état d'esprit des Tarn-et-Garonnais et plus largement celui des Français en ce moment ?
Je fais moins de philosophie et plus, et plus d'opérationnel, mais l'état d'esprit des Tarn-et-Garonnais, je pense qu'il est à l'image de tout un chacun et de tous les citoyens. C'est qu'évidemment, on a envie de reprendre une vie normale. Et on est également tous citoyens et responsables. Donc on sait que On reprendra notre vie normale quand tout cela sera derrière nous et que, ben, notamment, que tout le monde sera vacciné, parce que la vaccination, c'est notre chance, c'est notre porte de sortie. Et puis également de faire du déconfinement progressif pour que nous n'ayons pas à nouveau une remontée de l'épidémie. Pas de la philosophie, pardon. C'est encore très, très opérationnel et concret, je pense.
Mais concret. Alors, pour ce qui est du concret, une dernière chose. Donc, pour France Relance, tous les renseignements, on peut les obtenir sur le site de la préfecture, c'est ça?
Oui, sur le site national aussi, France Relance. Là, vous avez toutes les mesures qui sont détaillées sur le site de la préfecture et par le biais des différentes communications que nous passons, secteur et mesure par mesure.
Merci beaucoup, Madame la Préfète, d'avoir accepté l'invitation de CFM Radio. On vous réinvitera pour refaire un point sur la situation sanitaire qui sera loin de nous, nous l'espérons. Merci à tous pour votre fidélité. À jeudi prochain.